matin, nous sommes dans une série de méditations sur différents psaumes dans le psaltier. Et nous sommes arrivés au psaume 1. Nous avons étudié les quelques premiers versets donc la semaine passée. Et nous allons nous arrêter, vraiment freiner complètement presque, et nous focaliser sur juste une partie de ce psaume, la méditation. Et donc nous allons relire ce que Dieu lui-même nous dit au sujet de l'homme donc qui est heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans le Torah, dans la parole de Dieu, dans l'instruction de Dieu, et qui la médite jour et nuit. C'est la description de certaines personnes dans ce monde, même aujourd'hui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, donc à cette âme. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Deux destins très différents, comme nous avons vu la semaine passée, vraiment très différents. Et nous aurons l'un ou l'autre. Deux voix qui nous parlent dans le monde. Venez par ce chemin, disent les méchants, sur cette voie, ou bien la voie de l'Éternel dans la loi, à laquelle l'homme de Dieu prend plaisir. Et deux choix. L'homme qui ne vient pas sur ce chemin, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas, mais plutôt qui choisit de prendre son plaisir dans la parole et les voies et la sagesse et la relation avec Dieu. C'est formidable. Mais nous allons donc nous arrêter sur cette phrase dans le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Voilà la description que Dieu nous donne de tout homme heureux, béni en Dieu. C'est une personne qui prend plaisir à la parole de Dieu et qui a une pratique de la méditer jour et nuit. Maintenant, nous aurons quatre points aujourd'hui après une petite introduction. Nous voulons savoir et si ce moment ensemble ne se fait pas devant la face de Dieu et si ça ne change rien en nous, nous avons gaspillé notre temps. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, vous aider juste un tout petit peu à savoir qu'est-ce que c'est que méditer la Bible. Parce que si jamais vous comprenez et que vous commencez à méditer la Bible, votre vie sera changée. Ce passage nous le promet. Donc, c'est assez facile. Pourquoi dois-je vouloir méditer la parole? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce que la méditation de la parole? La feuille que vous avez n'est pas le plan du message. Ça, c'est une feuille pour vous aider chez vous lorsque vous allez méditer. Donc, mettez à part cette feuille pour le moment. Je vais vous indiquer certaines choses là-dessus tout à l'heure, mais si vous lisez, vous n'allez pas m'écouter. Donc, deuxièmement, qu'est-ce que la méditation? Troisièmement, quelle place la méditation doit-elle avoir dans votre vie? Et pour finir, comment méditer la Bible? Ok, nous commençons avec le pourquoi. Pourquoi est-ce que toi, tu dois désirer devenir quelqu'un qui médite la parole de Dieu et qui y prend plaisir? Le psaume nous dit quatre choses au sujet de cette personne pour nous mettre en appétit de cette sorte de vie. Dans le verset 3, nous voyons qu'une personne qui médite jour et nuit la parole de Dieu est comme un arbre planté d'un courant d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous parle des ressources de cette personne. Il est là, planté juste à côté des courants d'eau, dans un pays qui n'a pas beaucoup de précipitations comme le Moyen-Orient. Ben, c'est une aubaine, n'est-ce pas, d'être planté là. Et ça veut dire une chose. Ça veut dire que cet arbre a des ressources suffisantes pour faire ce qu'il doit faire et être ce qu'il doit être. Il y a des chrétiens qui disent, mais je sens comme si je n'ai pas assez de ressources spirituelles dans ma vie pour vraiment vivre une vie chrétienne, non pas parfaite, mais conséquente et solide. Je vous demande, est-ce que vous méditez jour et nuit la parole de l'Éternel? Parce que la Bible affirme, Dieu affirme, que celui qui médite cette parole jour et nuit sera comme cet arbre planté à côté des courants d'eau. Donc il y a des ressources suffisantes. Deuxièmement, le passage nous dit que donc il donne son fruit en sa saison. La deuxième raison pour laquelle moi je veux, et j'espère que vous aussi, vous voulez méditer la parole de Dieu constamment, c'est la question de fécondité, d'être quelqu'un de fécond. Maintenant, je sais qu'à un moment donné, nous avons voulu vivre juste pour nos plaisirs. Mais si vous êtes converti, vous avez compris que c'est tellement vide de tourner autour de vous. Vous savez qu'un arbre, on le plante pour recevoir un fruit, n'est-ce pas? Au moins cet arbre-là. Ça nous signale une vérité capitale pour le chrétien. Vous êtes là pour donner quelque chose à Dieu. Vous existez pour lui rendre quelque chose. Il veut du fruit de votre vie. Il veut prendre plaisir dans quelque chose que vous allez produire dans votre caractère et dans votre service pour lui. Et il y a des chrétiens qui me disent, mais je ne suis pas fécond dans ma vie. Je ne donne rien à Dieu. Est-ce que vous méditez la parole jour et nuit? Parce que Dieu nous affirme que celui qui le fait va être quelqu'un dans le feuilletage, qui donne son fruit en sa saison. Troisièmement, et dans le feuillage ne se flétrit point. Alors, c'est une question de solidité ou de force contre l'adversité, n'est-ce pas? Et nous rencontrons des chrétiens, et nous avons tous cette expérience, nous pouvons nous blâmer, moi et vous, que parfois dans l'adversité spirituelle, dans les épreuves, dans les difficultés, alors notre foi flétrit, on s'écroule. Et si nous avons l'habitude de nous plier devant les difficultés de la vie, d'avoir une vie spirituelle qui est seulement bonne quand tout se passe bien, eh bien, notre question c'est, est-ce que je médite la parole de Dieu jour et nuit? Parce que cette personne-là qui fait cela aura une sorte de solidité, de force contre les forces qui voudraient venir lui enlever la capacité de faire ce qu'il doit faire en tant qu'arbre. Ou en tant que chrétien. Et dernièrement, le passage nous dit « Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Alors, ça semble être trop beau pour être vrai. Et il ne faut pas le prendre dans le sens perfectionniste. La Bible, simplement, c'est peut-être une hyperbole qui veut nous montrer qu'il a tout simplement, enfin, cet arbre prospère. Cet arbre prospère. Et une vie chrétienne peut, et cet homme, et comme cela, dit la Bible, il y a des gens dont on peut dire que la vie chrétienne réussit. Ce n'est pas qu'on ne perd jamais des batailles, ce n'est pas qu'on est parfait, ce n'est pas qu'on n'a pas des moments de lamentation, d'échec, tout cela fait partie. Mais la réussite, c'est justement dans le fait qu'on rebondit, qu'on grandit même à travers et à cause de ces difficultés. Et j'ai besoin de me demander aujourd'hui, est-ce que ça me décrit? Est-ce que donc ma vie chrétienne est en train de réussir petit à petit avec toutes mes chutes? Sinon, je me demande, est-ce que je médite la parole de Dieu jour et nuit? Donc voilà pour le premier point. Pourquoi nous devons vraiment désirer avancer dans cette, vraiment dans cette question d'être quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Maintenant, le deuxième point. Qu'est-ce que donc la méditation? Alors, nous pouvons avoir un peu de confusion aujourd'hui en France parce que les religions orientales ont le vent en poupe, n'est-ce pas? Et donc, la méditation, quand on dit méditation, on a cette image de quelqu'un qui croise les jambes, n'est-ce pas? Et qui fait comme ça. Mais il y a de grandes différences entre la méditation orientale et chrétienne. Je vous donne trois différences, ok? D'abord, donc il y a une différence dans le, disons dans la méthode, dans l'action elle-même. Dans la méditation, pardon, orientale, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de se vider la pensée, de ne penser à rien. On veut devenir complètement vide dans l'esprit et passif, déconnecté de tout. Dans la méditation chrétienne, c'est exactement le contraire. On veut remplir la pensée de la vérité, et surtout la vérité sur Dieu, ses promesses, ses commandements, son royaume, sa volonté, etc. D'accord? Donc il y a une différence complète. Deuxièmement, l'outil qu'on utilise est différent. Dans la méditation orientale, on utilise un mantra. Souvent, c'est un mot qui ne veut rien dire, ou bien on fixe la vue sur un point qui n'a pas d'importance dans la salle où on est, et donc on fixe l'esprit sur une chose insignifiante qui n'a pas de sens. Or, dans la Bible, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. La parole de Dieu et sa vérité. Et puis le pourquoi. Dans la méditation orientale, quel est le but? Vous savez le but? Le but, plus souvent, ça peut varier, mais le but, grosso modo, c'est d'entrer dans un état d'esprit second, un état altéré. D'accord? On change de conscience. Et donc, le but est soi. Le but termine avec moi. Je veux atteindre une condition, un vécu différent. Or, dans la méditation chrétienne, la raison pour laquelle je veux méditer, ce n'est pas moi. C'est parce que je veux connaître Dieu, je veux croire Dieu, je veux obéir et servir Dieu. Et donc le but tourne autour de mon Créateur et mon Rédempteur. Très très différent. Mais la méditation chrétienne, si nous voulons résumer en un mot, c'est ruminer. C'est ruminer. C'est aussi différent que la lecture de la Bible, que ce que je vous ai dit dimanche passé, la différence entre le fait de prendre un sachet de thé et de faire comme ça, et boire. On n'a pas beaucoup de goût là. Ou bien de prendre le sachet, tremper, et puis boire. Donc la lecture sans la méditation, pas beaucoup de goût. Vous avez peut-être eu ce problème. Mais si vous apprenez à méditer la parole, vous allez voir, si vous êtes chrétien, une grande différence. Ok? Il s'agit d'une contemplation. Et même dans la Bible, le mot qu'on utilise pour méditer dans l'Ancien Testament, ce mot signifie parfois méditer dans le sens de contempler, et parfois ça signifie marmonner. Ça veut dire. Et par exemple, oulala, ça va être dur ce matin, dans le livre de Josué, Dieu lui dit que cette parole sera sur ta bouche. Tu méditeras jour et nuit cette parole, mais elle sera sur ta bouche, pas simplement dans ta tête. Parce que dans la méditation biblique, souvent il est question de mémoriser, et on mémorisait et on lisait à haute voix dans l'Antiquité. Et ça aide à réfléchir Ok, donc voilà. Maintenant, quelle place, et je vais juste rapidement vous rappeler que nous avons dit la semaine passée que Dieu nous précise que cette personne heureuse médite la parole jour et nuit, jour et nuit. Nous avons dit que ce n'est pas comme la personne qui visite le musée de temps en temps. Ou bien, c'est pas comme la personne qui va faire un jogging une fois toutes les 3 semaines. Ça n'a aucune incidence sur le bien-être de votre corps. C'est la personne qui fait le jogging constamment, ça devient une habitude. Ça le change physiquement. Ou bien la personne qui veut se bronzer et il va au soleil une fois par mois. Non. Si tu veux transformer la couleur de ta peau, il faut y être fréquemment. Et la méditation qui change le chrétien est une méditation qui devient une méditation constante, tous les jours, jour et nuit. Donc, bon, je ne vais pas en dire plus sur cela. Dans les psaumes, David va dire, je me lève à minuit pour méditer ta parole. Et nous voyons Isaac qui sort pour se promener la nuit parce qu'il va méditer. Donc nous avons toutes sortes de manières dont nous pouvons rendre ça plus constant. Nous avons notre culte personnel à un moment donné, mais nous avons d'autres moments où nous sommes capables en faisant un jogging ou en faisant d'autres activités ou juste avant de se coucher ou coucher. De faire repasser dans notre esprit constamment la parole de Dieu. Et pour cela, il faut parfois mémoriser aussi. Bien. Donc, maintenant, nous arrivons à la partie pratique. Comment est-ce qu'on pratique la méditation? Ok, nous allons finir avec cela. Donc, deux choses. Il y a une attitude et il y a une méthode. La méthode sans l'attitude ne va nulle part. Et ici, dans le texte, nous voyons que cette personne prend plaisir dans la parole de Dieu. Il a une certaine attitude de cœur lorsqu'il pousse à méditer et qu'il l'accompagne lorsqu'il médite. Et voilà 3 personnes à la table. Il y en a un qui mange comme un fou, qui mange avec plaisir. Ah, ouais! J'attendais ce foie gras. Et il y a un autre qui picote un peu, qui ne monte pas vraiment, et une autre qui touche même pas. Quelle est la raison, vous savez? Eh bien, pour celui qui ne mange pas du tout, c'est qu'il n'a pas faim. Et il y a des gens qui ne méditent pas la parole parce qu'ils n'ont pas faim de cette parole. Ils n'ont pas un cœur qui désire, qui veut. Ce que Dieu a à me dire, ce grand Dieu, ce grand Sauveur plein d'amour, Dieu tout sage et glorieux, en qui, par qui et pour qui sont toutes choses, celui qui est lumière, infiniment bon, infiniment glorieux, mais n'ont pas envie de savoir ce qu'il nous dit. Ça, c'est un problème grave que seulement la nouvelle naissance peut régler, n'est-ce pas? La personne qui picote, eh bien voilà, cette personne a déjà mangé beaucoup de chips et de bonbons il y a 1 heure. Et parfois nous avons ce problème, n'est-ce pas, que notre faim qui aurait été là a été satisfait par quelque chose de faux, n'est-ce pas? Et nous avons besoin, si nous sommes croyants, de faire attention. Mais la personne qui a soif, qui a faim, qui mange, c'est cette personne qui parle la foi. Et c'est ça la clé, la foi, qui croit que cette parole est une parole venue de Dieu, pleine de sagesse, qui transforme, qui change, qui révèle Dieu, qui me rapproche du Seigneur, qui me prépare au ciel, qui rend ferme mes pieds, qui change ma manière de sentir, de voir, de penser, qui bouleverse ma vie. Une personne qui croit que Dieu lui-même parle par cette parole, eh bien, quand il y vient, Il vient avec tremblement et avec avidité et joie devant cette parole qui est la parole même de Dieu. Donc, l'attitude. L'attitude, méthode. La méthode a deux parties. Lorsque nous étudions la méditation biblique, nous voyons deux ailes, deux parties, deux aspects, pas deux phases parce que les deux s'entremêlent constamment. Donc pendant que tu vas méditer demain, sans doute en suivant ce que tu as appris aujourd'hui, alors il va y avoir deux choses. La première partie, c'est réfléchir pour saisir. Et la deuxième partie, c'est réfléchir pour obéir. Réfléchir pour saisir. Je fixe ma pensée sur le passage, sur ce qu'il dit, sur ce qui arrive là, sur ce que Dieu affirme, ou comment il avertit, ou qu'est-ce qu'il promet. Je fixe ma pensée sur la parole et ce qu'elle révèle. Dans la deuxième partie, je retourne, je ramène mes pensées vers moi. Je pense à moi. En rapport avec cette vérité, je m'examine, je réfléchis, je me compare, je me questionne. Je dis comment est-ce que je vais mettre ça en pratique? Où est-ce que ça me touche? Comment est-ce que ça me concerne? Où est-ce que j'en suis? Et les deux parties sont absolument critiques, si vous allez vraiment méditer. Bien, nous allons rapidement regarder ces deux parties. D'abord donc, réfléchir pour saisir. Et là, on va prendre la fiche, s'il vous plaît. On va sauter cette première partie qui dit la préparation. Il s'agit de préparer votre cœur. Et donc, la première partie de la méditation, ça c'est réfléchir pour saisir, mais je l'appelle la contemplation ici. OK? Donc, premier point. Quand vous méditez, mettez-vous à la place des personnes dans un récit historique. Par exemple, vous êtes en train de lire Exode, où Israël arrive à Mont Sinaï et rencontre Dieu. Alors, imaginez-vous là, la montagne est enflammée. Tout le monde, même Moïse, tremble de fond en comble, secoué. S'il clôturait, parce que si une bête même approche à la montagne, il va mourir. C'est enflammé, le nuage est là, et Dieu, le Créateur, parle audiblement dans l'histoire de l'homme. Et il parle avec une voix de tonnerre qui fait que le peuple dit qu'il ne nous parle plus directement. Qui te parle, Moïse? Et je me mets là et je me fais sinistre un peu. Et je crée la scène et je me mets là et je dis, mais qu'est-ce que j'aurais appris de Dieu en vivant ça et en ressortant? Qu'est-ce que j'aurais senti? Comment est-ce que j'aurais changé? Donc, mettez-vous dans la scène. Deuxième point. Posez-vous des questions par rapport à ce que vous lisez. Maintenant, j'ai mis deux grandes sections ici. La première section, par rapport à ces questions que vous devez vous poser, et ça c'est la clé de la méditation. Posez des questions. La première partie, c'est poser des questions pour saisir le point principal du passage. Ok? Par exemple, quelles conditions pécheresses ou nécessiteuses se voient dans les âmes ici? Vous savez, chers amis, que dans tout passage de la Bible, il y a quelque chose qui se passe où l'âme est présent, et là où l'homme déchu est présent, il y a soit un besoin, soit un péché. D'accord? Et Paul dit à Timothée que les Écritures ont été données pour que l'homme de Dieu soit accompli ou complet pour toute bonne œuvre. Et être complet, les Écritures nous sont données pour nous compléter. Ça veut dire qu'il y a un trou, une carence. Dans chaque passage biblique, et les Écritures viennent pour nous apprendre comment Dieu lui-même peut solutionner ce qui ne va pas. Ou ce qui manque chez moi. Donc il faut aller chercher cette condition universelle qui s'applique à toi aussi. mais qui est là dans les hommes dans le passage. Ok? Ça peut être... Bon, je ne vais pas aller, je vous laisse faire. La deuxième question sous cette partie, c'est quel message et quel espoir est-ce que Dieu donne en face de ce besoin ou de ce péché? Parce que dans chaque passage de l'Écriture, il n'y a pas que Dieu, l'homme et son besoin et son péché, il y a Dieu, le Rédempteur. Et je veux aller chercher qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce qu'il dit pour venir au secours de l'homme ici. Et là, vous allez trouver le point principal du passage. D'accord? Est-ce que vous avez l'habitude de faire comme ça? Peut-être pas. Mais ça va vous aider beaucoup de vous poser ces questions. Ok. Maintenant, quand vous allez voir un peu quel est le point principal, creusez un peu, et ça c'est la deuxième partie, pour creuser un peu plus par rapport à ce point principal du passage, demandez-vous des questions comme celle-ci. Pas obligé que vous vous posez toutes ces questions chaque fois. Hein, qui, si Dieu vous parle à travers un truc, peut-être que vous allez vous arrêter là et vous allez juste vous en tenir là. Mais voilà quelques exemples. Qu'est-ce que Dieu me dit sur lui-même et son caractère dans le passage? Ah oui, Jacques 1. Le Dieu qui donne librement la sagesse sans reproche. Ok, ça me parle de Dieu et comment il est lorsque je demande la sagesse dans mes épreuves. Ou bien, qu'est-ce que Dieu m'apprend ici sur la manière dont il sauve ou sur Jésus-Christ le Rédempteur? David et Goliath, il y a un salut là. Mais comment est-ce que Dieu sauve? Il sauve tout un peuple par un seul homme. C'est vraiment bizarre. Il sauve tout un peuple qui ne peut rien faire, qui a trop peur, qui est immobilisé. Mais il y a un homme qui se suscite, qui doue. Et cet homme va remporter la victoire et changer toute la situation. Ah oui! Mais ça me rappelle de Jésus. Il sauve tout un peuple par un seul homme. Oh Dieu, merci. Parce que je suis comme ces gens qui avaient peur, trop souvent, immobilisés. Ensuite, est-ce que Dieu me fait une promesse que je dois croire ici? Ou est-ce que Dieu me donne un commandement auquel je dois obéir? Est-ce qu'il me donne un exemple à suivre, à ne pas suivre? Est-ce que Dieu m'explique ici comment accomplir la chose qu'il m'appelle à faire? Parce que là, il y a un problème parfois, c'est le comment. Ok, donc ça c'est pour le grand point 2, posez-vous des questions. Troisièmement, réfléchissez sur les mots, les phrases du passage ou sur les aspects du récit que vous ne comprenez pas. Alors hier, je suis allé me promener, comme je le fais presque tous les jours, et je mémorise les Écritures quand je sors comme ça et je les médite. Mais hier, j'avais une phrase dans ma tête pendant 50 minutes et je tournais cela. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1, au sujet de Jésus. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Wow. Qu'est-ce que ça signifie? Parfois le Seigneur nous arrête sur une chose comme cela. Je dois avouer que pendant l'année passée, j'ai dû passer presque 6 mois à méditer beaucoup de soirs, couché sur mon lit. Je ramenais un Jean chapitre 1 dans ma tête, un passage un peu lié qui dit « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et en lui, point de ténèbres. » Et pendant des mois, j'ai cherché comme un homme assoiffé, mais montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Est-ce que je le comprends? Est-ce que je le vis? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers cela? Ensuite, quatrièmement, pesez la signification de chaque mot dans une phrase qui vous semble importante. Lorsqu'il y a une phrase qui vous saute aux yeux, arrêtez-vous et prenez presque chaque mot parfois. Par exemple, lorsque Jésus dit en Jean 15, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Où on pourrait presque s'arrêter sur chaque mot. Il y a une richesse énorme dans cela. Mais il faut méditer, il faut ruminer de cette manière. Ok, plus rapidement, on termine avec la deuxième partie sur le verso. Et maintenant, nous réfléchissons non pas pour saisir, comprendre, mais pour obéir ou agir. Cette fois, on retourne ses pensées vers lui-même. Et je vous signale ceci. Donc, restez avec moi. Hein. On est vraiment presque au bout. Je vais prendre 4 ou 5 minutes encore, ok? Je veux juste vous citer Josué chapitre 1 et verset 8 pour vraiment vous convaincre que cette partie de la méditation est essentielle. Donc, le verset 8 dit ceci. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Réfléchir pour agir. Non pas simplement pour comprendre. Et là, c'est là que la méditation devient transformatrice. Je vous assure que c'est là où vous allez voir votre vie changer. Dans cette partie. Maintenant, numéro 1, personnaliser et appliquer les vérités bibliques que vous avez comprises. Et là, posez-vous des questions comme celle-ci. Comment est-ce que ces vérités s'appliquent à moi? Je suis en train de lire Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des supplications avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. » Et je pense à moi. « Ne vous inquiétez de rien. » Est-ce que je suis quelqu'un qui m'inquiète? La plupart des gens ne le savent pas, qu'ils le sont ou pas. C'est comme la colère. Une personne coléreuse souvent ne sait pas qu'elle est habituellement en colère. Et donc je me dis, est-ce que je suis souvent inquiet? Quels sont les signes? Qu'est-ce qui m'inquiète? À quelle fréquence qu'est-ce que je suis inquiet? Pourquoi est-ce que je m'inquiète? Dans quel domaine de ma vie dois-je mettre en pratique ces choses? Je suis en train de méditer Jacques 4 au sujet des querelles et de la colère que les gens peuvent avoir. Est-ce que je suis une personne querelleuse? Est-ce que j'ai un problème de colère? Quand est-ce que je me fâche? Papa gentil? Collègue gentil, conducteur fâché, n'est-ce pas? Donc, je réfléchis, j'examine, je retourne la parole contre moi, ou pour moi, et je regarde les domaines de ma vie. Je veux savoir, que vais-je faire concrètement pour commencer à ramener ma vie en accord avec ce que la parole dit sur ce point? Qu'est-ce que j'ai besoin de penser différemment? Qu'est-ce que j'ai besoin de croire que je ne crois pas? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ou ne pas faire? Et là, je descends dans les détails. J'écris. Si j'ai besoin. Deuxième point, deuxième grand point. J'ai personnalisé, j'ai appliqué ces choses à ma vie. Et parfois, j'ai besoin, pas toujours, mais parfois, j'ai besoin de prêcher un sermon. La méditation, c'est aussi parler. C'est s'exhorter soi-même. Regardez le verset que j'ai mis, le psaume 42:6. C'est le psalmiste qui parle à lui-même. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Parfois, il est bien de se parler, même à haute voix, si on n'est pas avec les autres. De se lire ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Et parle-toi, exhorte-toi. Ensuite, parlez avec Dieu en détail concernant ce que vous avez appris. C'est complètement critique. Parce que si la méditation n'aboutit pas sur un contact, une conversation, le relationnel avec Dieu, alors, il y a un court-circuit quelque part. Là, lorsque Dieu me parle, je lui parle. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas des phases séparées. Chaque fois au courant de cette méditation, je suis souvent en train de m'arrêter et dire « Oh Seigneur, confession, tu vois que, combien je m'inquiète au sujet de… » Et puis un peu plus loin, « Oh Seigneur, aide-moi à… » Un peu plus loin, je loue le Seigneur parce que je sais qu'il a promis ici, dans ce passage, quelque chose qui me concerne. Donc, la méditation est la chose principale qui fait de quelqu'un un chrétien qui prie. La méditation nourrit et crée la prière. Et si vous ne priez pas, méditez. Méditez. Quand Dieu vous parle, vous aurez envie de lui parler. Eh bien, nous avons fini. Je vous laisse avec cette fiche aujourd'hui. C'est un peu le comment aujourd'hui. Essayez de prendre ça avec vous dans votre culte personnel. Vous n'allez pas tout utiliser chaque fois, mais essayez d'entrer dans cette pratique un peu plus. Et c'est sûr que le Seigneur vous bénira. Et il sera glorifié. Nous allons terminer notre culte par un chant qui parle justement de la parole de Dieu et sa richesse. C'est le numéro 179, ta parole, Seigneur. Et après ce chant, nous aurons un moment de prière collective. 179, ta parole, Seigneur.